les jardinières.
La pluie semble se plaire dans nos régions et arrose les jardins à notre place. Et ce n'est pas pour autant que les jardiniers restent les bras croisés. Des conseils, des questions, nous sommes là jusqu'à 8h pour parler jardin. Bonjour Raphaël.
Mais bonjour Mylène et bonjour tout le monde.
Pour répondre à vos questions jardinage, nous recevons ce matin Tom le jardinier. Bonjour Tom.
Bonjour, bonjour.
Tom le jardinier, vous êtes chroniqueur, blogueur et auteur du livre Un potager au naturel, paru chez Albin Michel. Merci d'être avec nous ce matin. Et pour les jurassiens, sachez que Tom sera dès 10h et jusqu'à midi à la librairie La Page d'encre à Delémont pour dédicacer justement son livre Un potager au naturel.
Mais avant de signer les autographes, il répond à vos questions. Bienvenue à toutes et à tous dans les jardinières. On se lance pour une heure de jardinage.
7h, 8h, les jardinières.
La pluie a pris le dessus ces derniers jours, mais les températures remontent, un petit peu en tout cas. Les saints de glace se terminent normalement aujourd'hui, en tout cas selon Google. Tom, les sols sont bien humides. Que doit faire le jardinier au potager ?
Eh bien, on parlait de ces fameuses saints de glace. Moi, je les appelle les saints de glace, pas saintes, mais bon, voilà. Il faut faire attention, c'est il y a en fait les températures nocturnes sont encore assez fraîches.
Et même aurait... celle de journée. Hein.
Ouais, quand même. On aurait tendance à se dire, les saints de glace sont terminés, on peut tout planter au jardin. Par contre, moi je dis un petit peu être vigilant tout de même, j'attends que les nuits dépassent quand même ces fameux 10 degrés, parce que si on plante tomates, concombres, aubergines, tous ces légumes du sud, tous ces légumes qui adorent le soleil, ben, ils risquent d'être un petit peu bloqués, ils risquent de un petit peu se crisper, puis des fois prendre jusqu'à 2 semaines, voire même 1 mois, sans plus bouger, sans plus pousser, parce qu'il fait un petit peu trop froid, et ils restent un petit peu crispés. Donc un petit peu de patience, on peut commencer à un petit peu désherber, préparer le jardin, mettre du compost, pailler, etc. avant de planter. Mais moi, je patienterai un petit peu. Puis, sous ce mauvais temps, peut-être faire attention si on a des salades. Les fameuses limaces peuvent les manger avant nous. Donc, être un petit peu patient et puis... un petit peu anticiper les choses.
On parlera des ravageurs justement tout à l'heure. Je me demandais, Tom, là le temps est très très humide, est-ce qu'on doit faire quand même attention dans le jardin à certaines choses, à part à glisser?
On évite de trop piétiner la terre, parce que quand elle est bien humide, elle a tendance à se former des croûtes, à former des flaques. S'il y a des flaques d'eau, on peut utiliser la fourche bêche pour aller un petit peu décompacter la terre par-ci, par-là. Par exemple, pour éviter de marcher trop sur son gazon, on peut mettre des planches, comme ça répartit un petit peu plus le poids, etc. Mais on met aussi peut-être un pluviomètre, on récupère l'eau de pluie aussi pour ce genre de petites choses-là qui peuvent être utiles d'après les grandes prévisions, d'après les tendances météorologiques. Paraît-il qu'on aura un été très chaud, donc récupérer l'eau de pluie, ça peut être important, surtout pour les canicules plus ou moins annoncées.
J'espère que vous avez raison, Tom, pour l'été bien chaud, parce qu'on en a besoin après ces semaines de froid. Merci beaucoup, Tom. Le samedi matin, vous savez, vous avez la possibilité de poser vos questions jardinage directement à notre professionnel en direct avec nous. Ça se passe par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également communiquer avec nous par SMS. Vous tapez jardin, un espace et votre question que vous nous envoyez au 939 ou par le formulaire que vous trouvez sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émissions questions aux jardinières et vous pouvez même y joindre une photo.
Les jardinières reviennent dans quelques minutes et Tom nous parlera des ravageurs.
7h, 8h, les jardinières.
Avoir un potager, c'est un régal, en particulier lors des récoltes, mais parfois certains viennent nous mettre des bâtons dans les roues. Grignoteurs ou piqueurs-suceurs, insectes, mollusques ou rongeurs, les ravageurs du potager ont un œil sur vos légumes. Tom, alors, qui sont ces principaux ravageurs à surveiller de près ?
Alors, il faut tous les surveiller de près. La première chose que je fais en arrivant au jardin, c'est déjà d'aller me balader dans tout le jardin pour un petit peu vérifier l'état des cultures, voir les feuilles, voir les fruits, voir s'il y a des récoltes à faire. Parce qu'il faut avoir un œil pratiquement constamment sur son jardin pour être certain qu'il n'y ait pas d'attaque en cours qu'on n'aurait pas vue la fois d'avant. Donc, Première chose, on va les surveiller, les limaces, les escargots, on va regarder les pucerons, on va regarder si on a des pommes de terre, par exemple les doryphores. Enfin, voilà, on va faire une inspection générale et puis on va essayer de les reconnaître. On regarde par exemple avec des photos, on peut regarder aussi il y a, sur Internet pour regarder les, avec les dégâts que ça fait, par exemple si les feuilles sont mordillées sur le bord ou si c'est juste des pucerons noirs, des pucerons verts, etc. On va d'abord identifier les ravageurs et puis faire vraiment cette visite pour pouvoir regarder quels ravageurs il y a dans son jardin. C'est la clé, parce que si on ne sait pas qu'est-ce qu'on a, si on doit par exemple intervenir, on ne sait pas comment intervenir. Donc, une intervention ciblée permettra de faire les choses correctement.
Mais justement, Tom, pour bien cibler ces ravageurs, est-ce qu'il y a des signes qui ne sont à ne pas manquer pour les identifier dès le premier coup d'œil ?
On peut voir, par exemple, les têtes des légumes un petit peu fléchir. Alors, ça peut être soit un manque d'eau, soit par exemple une attaque de pucerons. On peut voir les feuilles se regroqueviller aussi sur elles-mêmes, genre de choses-là. Ou on peut voir des trous dans les feuilles qui peuvent être des choses. Là, on sait qu'on a une attaque de ravageurs ou de maladies.
Tom, ils sont nombreux, les ravageurs. Vous en avez cité quelques-uns, escargots, limaces, pucerons. Est-ce qu'il faut tous les supprimer pour avoir un potager en forme ?
Pour moi, tout est une question d'équilibre. J'ai tendance à surplanter dans mon potager. Au lieu d'avoir 6 salades que je vais consommer pour une semaine, par exemple, j'en plantais 12. Puis si j'ai une salade qui, de toute façon, il se peut qu'elle ait un problème, qu'elle meure de chaud, que j'oublie de l'arroser, etc. Donc, tout est une question d'équilibre. Alors, peut-être pas planter 50% plus, mais en ayant une sorte d'équilibre, on arrive à avoir des belles récoltes. Puis on laisse une petite partie aussi pour la nature. Je pense que c'est vraiment la question, c'est l'équilibre plus qu'avoir un jardin sans ravageurs, parce que les ravageurs peuvent aussi attirer des insectes plus rares, des oiseaux aussi. Puis c'est une question de nature aussi dans le potager.
Justement, on est aux prémices de notre saison au jardin. Est-ce qu'on peut faire de la prévention justement contre ces ravageurs ?
Alors, pour la plupart, on peut faire de la prévention. On peut aussi, par exemple, moi j'ai une astuce, par exemple, contre la limace. On peut mettre ces fameux granulés bleus, mais ces granulés bleus, généralement, ils sont mis en surdose. Moi, j'ai vu des jardins presque tout bleus, alors qu'il faudrait mettre une cuillère à soupe par mètre carré. Généralement, quand on lit bien le mode d'emploi et le dosage et la prescription, c'est ça. Par contre, on peut mettre une planche et des rondelles de pommes de terre dessous. Les limaces, la journée, n'apprécient pas la chaleur, la lumière. Elles vont se réfugier sous cette planche de limaces. Puis après, je vais, entre guillemets, les récolter. Donc, je vais les prendre et puis je vais aller les mettre plus loin en forêt ou un petit peu dans le champ du voisin. Elles feront moins de dégâts dans le champ que dans mon jardin. Et puis, en fait, tout le monde s'en sort sain et sauf.
Et justement, ces limaces, il existe carrément des livres pour s'en débarrasser. Ça marche, toutes ces astuces. Moi, j'ai lu avec la bière, avec des coquilles d'œufs, parce qu'elles ont l'impression que ça va les couper. Ça fonctionne ?
Alors, il y a des mythes de grand-mère. Il y a aussi, par exemple, les cheveux. Récupérer des cheveux, mettre des poils, la cendre, etc. La plupart fonctionnent. Les coquilles d'œufs, il faudrait quand même en mettre une sacrée barrière, une sacrée quantité, pour presque une quantité industrielle, pour pouvoir s'en débarrasser, puis qu'elles ne viendraient pas autour de nos cultures. La bière, ça fonctionne assez bien. Après, il y a aussi les fils de cuivre. Mettre un fil de cuivre, si on a un potager qui est délimité par des planches, visiblement, elle ne passerait pas par-dessus.
Merci beaucoup, Tom, pour ces précieux conseils. On se retrouve dans quelques minutes. Vous nous parlerez des auxiliaires, ces insectes ou mammifères amis des jardiniers qui ont pour tâche de croquer justement les ravageurs.
7h, 8h, les jardinières.
Tom le jardinier, chroniqueur, blogueur et auteur est en notre compagnie ce matin. Il y a quelques minutes, nous avons parlé des ravageurs, ces insectes qui prennent un malin plaisir à grignoter notre potager. Et pour les combattre, il existe les auxiliaires. Alors Tom, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont ces auxiliaires ?
Alors en fait, les auxiliaires, c'est des animaux qui sont plutôt bénéfiques au jardin potager, contrairement comme on l'avait vu avant aux ravageurs. Donc ils peuvent... Ils sont très utiles. Par exemple, les vers de terre, ils vont retourner le sol, ils vont décomposer la matière organique. On a aussi les pollinisateurs, les chauves-souris qui vont venir piquer et manger les moustiques, par exemple, on a la coccinelle, on a le hérisson aussi qui va se débarrasser de pas mal de limaces, qui va se débarrasser de pas mal d'escargots. Puis on a tendance à ne pas l'apprécier, mais le perce-oreille est aussi bénéfique au potager.
Mais est-ce qu'il est possible, Tom, de faire venir des auxiliaires dans son potager? Je m'explique. Est-ce qu'on peut aller chercher des vers de terre ailleurs et les mettre dans son jardin?
Alors, oui, on peut. Par contre, ils sont généralement aussi bien où c'est qu'ils sont que dans votre jardin. Par contre, on peut trouver dans le commerce des auxiliaires en vie. On peut commander. Il y a des sites internet où dans votre jardinerie, vous pouvez recevoir pour précommander, puis vous recevrez par la poste, par exemple, des larves de coccinelle, par exemple, des nématodes qui sont aussi des petits insectes, des toutes petites, enfin, c'est des tout petits êtres vivants qui vont venir, par exemple, dans les pucerons, les manger depuis l'intérieur parce qu'ils vont pondre leurs œufs dedans. Donc, on trouve plein de choses maintenant qui peuvent permettre de soigner son jardin au naturel.
Alors, on commande ces petites larves de coccinelle via Internet, on les reçoit à la maison, mais on n'est pas sûr qu'elles vont rester dans notre jardin.
Alors, non, on n'est pas sûr qu'elles vont rester dans notre jardin, mais comme tous les insectes, plus proches ils sont d'une source de nourriture, moins ils vont aller loin. C'est tout bête, mais si dans votre jardin, il y a des milliers de pucerons, les coccinelles vont plutôt préférer s'occuper des pucerons-là que de faire des centaines de mètres pour aller ailleurs, alors qu'on a de la nourriture dans son jardin.
Et pour les garder, ces auxiliaires en vie, est-ce qu'on n'éviterait pas les produits non naturels dans son potager?
Alors oui, on peut éviter ces produits non naturels qui sont dangereux. On peut aussi créer des espaces un petit peu appropriés. Il y a l'hôtel à insectes, il y a par exemple faire aussi quelques petits tas de branches. On peut aussi éviter de faucher son gazon au cordeau, green de golf, puis laisser peut-être quelques petites... des pissenlits, quelques petites pâquerettes, laisser aussi plusieurs fleurs, faire des endroits un petit peu plus en friche qui vont eux aussi abriter ces auxiliaires. Et puis les ravageurs aussi vont plutôt dans ces endroits un petit peu plus naturels, un petit peu plus leur état de vie au naturel que dans le potager qui a quand même un endroit un petit peu plus travaillé.
Donc finalement, ce qui compte, c'est faire une balance entre ces auxiliaires, ces ravageurs, votre potager.
C'est ça, tout est dans le compromis en fait. Plus notre jardin ressemble à un endroit naturel, on voit rarement des forêts qui sont détruites par les pucerons ou par les limaces, en fait.
C'est juste.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre rendez-vous jardinage du samedi matin. Avant de sortir au potager, posez vos questions à notre professionnel en direct ou par message. Ce matin, c'est Tom le jardinier qui répond à vos questions. Il est chroniqueur, blogueur et auteur du livre « Un potager au naturel ».
Et puis, il est là avec nous jusqu'à 8h et vous avez 3 possibilités pour lui poser vos questions par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez « jardin espace ». Votre question, vous nous l'envoyez au 939 ou par le formulaire avec la possibilité de joindre une photo. Ça se passe sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émissions, questions ou jardinières.
En première partie d'émission, nous avons parlé des ravageurs et des auxiliaires qui habitent notre jardin. Pour terminer et clore cette partie d'émission, les ravageurs et les auxiliaires font partie de la nature. Est-ce que vouloir éliminer les premiers ne péjore pas les seconds? Donc, est-ce que se débarrasser des ravageurs, au final, n'est pas mauvais pour l'écosystème?
Alors, je dirais, tout est une question de compromis. Le plus important aussi, c'est de savoir ce qu'on veut dans notre jardin, en fait. Bêtement, si on veut produire des légumes à tout va et puis vraiment presque être tendre vers l'autonomie, soit on fait un jardin plus grand, soit on essaye d'avoir un petit peu moins d'attaques. Donc, tant que tout n'est pas, il faut juste avoir une sorte d'équilibre. Et puis, avoir des ravageurs un petit peu permet aussi d'attirer les auxiliaires. Et puis, surtout, ce qu'on oublie un petit peu, c'est qu'il faut préserver ces masses d'insectes. Un truc tout bête, mais moi, je me souviens quand on partait sur l'autoroute avec la voiture, avec mes parents, quand j'étais plus petit, bon nombre d'insectes étaient écrasés sur les pare-brises. Aujourd'hui, il n'y en a plus tellement. Donc, les jardins, si ça peut être un petit refuge pour eux, on ne va pas s'en priver.
Merci beaucoup Tom pour ces conseils et ces souvenirs d'enfance. Et je vous propose d'enchaîner avec une question reçue cette semaine sur notre site internet de la part de Charline, qui colle plus ou moins avec notre thématique de ce matin. Elle nous écrit « Bonjour, des fourmis envahissent mes pivoines. Est-ce que je laisse ça comme ça ou faut-il agir ? Et si oui, comment agir ?» Elle nous a joint une photo, Tom, que vous avez entre les mains.
Alors, j'ai la photo, effectivement, il y a trois petites fourmis qui se courent après sur cette pivoine. Généralement, les fourmis, elles apprécient beaucoup les pucerons. Donc, c'est peut-être aussi qu'il faut aller regarder, soulever les feuilles si on ne voit pas un ou l'autre puceron. Et sinon, elles ne dérangent pas tellement la pivoine. Elles peuvent aller éventuellement faire quelques petites piqûres sur le bouton floral, mais ça s'arrête là. Donc, encore une fois, là, moi, j'agirai pas forcément.
On les laisse tranquilles.
Voilà.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre rendez-vous jardinage. Mais pourquoi Stéphane Escher s'emballe comme ça ?
Il a envie de déjeuner en paix.
Oui, et il déjeunera en paix plus tard. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis désolée. Voilà. Donc, nous disions donc que les jardinières, c'est votre rendez-vous jardinage du samedi matin. Et nous avons reçu une question.
Tout
par,
plein, mais
par
déjà
formulaire.
Une.
Peut-être, Raphaël, vite rappeler comment on peut poser nos questions, les questions à Tom le jardinier qui est notre invité ce matin.
Évidemment, alors déjà on peut prendre son téléphone et composer un numéro, c'est le 0900 70 20 20, pour nous contacter et parler avec nous en direct, et on aime entendre votre voix le samedi matin. 0900 70 20 20, vous pouvez le faire par SMS si vous êtes un peu plus timide, vous tapez jardin un espace suivi de votre question, le tout au 939, ou alors vous pouvez aussi passer par le formulaire qui est disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émission question aux jardinières et vous pouvez même y joindre une photo.
Comme l'a fait Corinne de Bienne. Alors Tom, je vous lis la question. Elle nous dit « Bonjour, dans mon petit champ de pommes de terre, je suis envahie de mauvaises herbes, selon la photo qu'elle a joint. Elles sont très profondes et font des rhizomes. Au look, c'est comme la chicorée ou laitue sauvage. Faut-il les enlever ou les laisser sans que cela nuise à mes pommes de terre ?» Elle précise que c'est un travail de titan. Elle a commencé le week-end dernier. Mais quelle galère ! Et en plus, c'est moche dans mon jardin. Elle nous remercie et bonne journée. Puis ensuite, elle nous demande si vous connaissez un désherbant miracle pour venir à bout des pieds de coque. Alors, on va prendre peut-être dans l'ordre. Alors déjà, peut-être décrire cette photo pour commencer, Tom.
Alors, on a des racines traçantes comme un peu le pissenlit. Hein. On a ces longues racines qui peuvent être assez difficiles à enlever. Donc là, pour aller plus rapidement, je peux conseiller d'utiliser la gouge à asperge, qui est une sorte de long couteau qu'on peut planter dans la terre et puis aller sortir les racines avec un petit geste de poignet, donc un petit peu d'huile de coude. Et puis, dans les champs de pommes de terre, c'est là aussi qu'on parlait d'équilibre avant avec auxiliaire et ravageur. Les mauvaises herbes, c'est pareil. Tant qu'elles ne font pas trop de concurrence aux pommes de terre, ça va. Puis après, de toute façon, les pommes de terre, sauf si on les fait une culture sous paille, généralement, on a tendance à les buter. Donc peut-être profiter de cette étape de désherbage pour un petit peu buter les pommes de terre, qui devrait être une bonne solution pour s'en débarrasser.
Et elle nous demande, est-ce que vous avez un désherbant miracle pour venir à bout des pieds de coque ?
Alors, j'avoue que je ne connais pas cette mauvaise herbe. Par contre, tout dépend si elle est déjà dans une culture ou pas. Si elle n'est pas dans une culture, moi j'ai un désherbant miracle, c'est mettre une bâche noire 6 mois sur son jardin, sur sa terre. Puis toutes les mauvaises herbes, même les mauvaises herbes vivaces, elles vont mourir parce qu'elles n'auront pas de lumière, pas de soleil, qui est indispensable pour faire leur photosynthèse et leur cycle de vie. Donc, si c'est en dehors des cultures, 6 mois de bâche, ça fonctionne bien. Puis sinon, l'huile de coude.
Merci beaucoup Tom, on espère que Corinne, vous avez pu trouver des réponses à vos questions. Je propose Tom que nous déjeunions en paix cette fois tranquillement avec Stéphane Escher et on se retrouve juste après.
7h, 8h, les jardinières.
Nous sommes le 15 mai, vous écoutez les jardinières, nous sommes ensemble encore jusqu'à 8h. Tom, le jardinier, répond à vos questions. Ce matin, nous en avons reçu pas mal. On va revenir sur cette question qui nous parle de tomates. Bonjour, hier j'ai acheté un plant de tomates et je souhaite le mettre dans un grand pot sur mon balcon. Je n'ai pas de jardin. Est-ce que je peux le faire dès aujourd'hui ou est-ce que je dois attendre que les températures remontent un peu ? Je vous remercie de votre réponse. Kathleen, elle nous vient de Tramelan.
Eh bien oui, elle peut le planter en pot. Le pot a l'avantage de pouvoir éventuellement, si une nuit il s'en venait à faire frais en dessous de ces fameux 10 degrés, être rentré. Ne pas oublier d'installer un bon tuteur parce que la tomate peut et va grandir et puis peut avoir un petit peu du poids. Donc vraiment un bon tuteur, au moins pratiquement 2 mètres. Le diamètre du pot, au moins 40 cm. Puis mettre une terre riche avec du compost et puis ça devrait être parfait pour sa culture.
Merci beaucoup Tom, on espère que ça arrangera Kathleen de pouvoir mettre ses tomates, son plant de tomates en pot. Je vous propose d'enchaîner avec une question que j'ai reçue par téléphone de Paulette il y a quelques instants. Elle m'expliquait, elle voulait pas être avec nous à l'antenne, donc elle m'expliquait qu'elle avait un terrain avec du gazon. Et puis il y a quelques années, elle a éliminé un pommier qui était au milieu de ce gazon, ce qui a formé un petit trou, mais sauf qu'il y a un blaireau qui s'amuse à se balader dans le gazon de Paulette. Et ce trou commence à s'agrandir et elle aimerait bien se débarrasser du blaireau sans trop lui faire de mal, bien entendu. Tom, est-ce que vous avez une astuce pour Paulette ?
Alors, il y a plein d'astuces pour éloigner le blaireau plus que, qu'autre chose. La première chose, c'est qu'on peut utiliser des lampes au sol parce qu'il y a ces lampes qui se rechargent avec le photovoltaïque. Ces animaux comme le blaireau ne vont pas aimer. Il y a aussi les CD usagers qui vont faire un petit peu de la lumière, etc. Ils n'aiment pas. Et puis, il y a utiliser de la citronnelle qui peut éloigner son blaireau.
Tout simplement, de la citronnelle.
Oui, planter quelques petits pieds de citronnelle et puis ça devrait faire fuir le blaireau.
Merci beaucoup, Tom, pour toutes ces précisions sur les blaireaux. On va parler tout à l'heure des limaces et des escargots comme ravageurs dans le jardin. Justement, on a une question là-dessus. On nous demande quel rôle jouent les limaces et les escargots, mais dans un compost cette fois-ci.
Alors, dans un compost, on peut avoir plein d'animaux, hein, mais les limaces et les escargots en particulier, elles vont souvent... Ils et elles vont gentiment décomposer la matière organique à la surface. Et puis, on a les feuilles de salade qui peuvent manger quelques petites feuilles mortes, etc. Mais on peut aussi trouver, par exemple, de l'orvet. Il y a plein de micro-organismes dans son jardin aussi. On a parlé des escargots. Il y a les cloportes aussi qui peuvent vivre, les perce-oreilles, les vers de terre, les coléoptères. Bref, un compost, c'est toute une énorme vie qu'il peut avoir dans son compost. Donc voilà.
Une belle colonie.
Merci beaucoup Tom. Je vous propose une dernière question qui vient de nous arriver par SMS. Merci à Linda de l'avoir posée. J'ai beaucoup de campagnols dans le jardin. Il y a des couloirs souterrains partout. Est-ce qu'il y a une manière de les chasser ?
Alors, une technique qui fonctionne plutôt bien, c'est de planter des bâtons de sureau d'environ 20 à 30 cm tout autour de son jardin, éloigné, espacé d'environ 30 cm. Et puis là, l'odeur, ils apprécient pas, donc ils vont fuir et ils vont aller plutôt ailleurs. Puis si vraiment ils sont trop envahissants et sont déjà présents dans le jardin, il y a une bonne technique, c'est l'arrosage avec un purin de sureau, justement. Donc ça aussi, ça les fait fuir plus que les tuer aussi. Et puis sinon, vraiment, si on veut être un petit peu plus radical, bon, on adopte un chat.
Pour le purin de sureau, on fait ça à partir des feuilles, des fleurs ?
Alors, on va faire ça à partir des feuilles. On va mettre 1 kilo de feuilles dans 10 litres d'eau, si possible de l'eau de pluie. Et puis, on va laisser fermenter ça jusqu'à quand il n'y a plus de bulles d'oxygène qui se font à la surface. Une fois que tout ça est bien macéré, ben, on va l'arroser. Là, je conseille tout de même de l'arroser pur parce que ça ne va pas abîmer le jardin ou les plantes que l'on souhaite cultiver.
Merci beaucoup Tom. Ce matin, en votre compagnie, nous avons parlé des ravageurs et des auxiliaires qui habitent dans nos potagers. On pourra réécouter tout ça sur notre site en cours de matinée. Et avant de vous laisser filer, dites-nous Tom, nous sommes le 15 mai, dernier jour des Saint-Glace, comment vous le dites ?
Les Saint-de-Glace.
Saint-de-Glace. On fait quoi au potager ce week-end ?
Alors, on peut faire plein de petits semis encore en intérieur, en extérieur. On peut planter les pommes de terre, on peut faire semer des radis par exemple. On peut regarder si le gazon il est un peu sec, c'est le temps aussi peut-être de le tondre une première fois. Pas trop bas, hein, pour que, éviter. Si on le tombe trop bas les premières fois, ben, il peut créer de la mousse, laisser de la mousse s'installer. Donc on va éviter de tondre notre gazon trop bas. on peut tailler tout ce qui est arbuste à floraison printanière. On a par exemple le forsythia qui se taille, certaines charmilles aussi qui peuvent... plein d'arbustes qui fleurissent tout au début du printemps. Ils se taillent maintenant et pas à l'automne pour qu'ils aient le temps de faire des bourgeons floraux pour le printemps prochain.
Merci beaucoup Tom pour vos précieux conseils. On rappelle que vous êtes chroniqueur, blogueur et auteur et que surtout dès 10h et ce jusqu'à midi, vous serez à la librairie Page d'encre à Delémont pour dédicacer votre livre « Un potager au naturel ». Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite un bon week-end, et une bonne séance de dédicace et on vous dit à très bientôt.
À la prochaine.
Merci Tom. Les jardinières vous donnent donc rendez-vous samedi prochain dès 7h. Nous serons en compagnie de Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy. Et bien sûr, vos questions sont les bienvenues à tout moment, soit par SMS, vous tapez jardin un espace, votre question, et vous nous envoyez ce message au 939, soit par formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières avec la possibilité de joindre une photo. Bon week-end, Raphaël.
Et bon week-end, Mylène, et à la semaine prochaine.
Oui, avec plaisir. Bon week-end à toutes et à tous. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous.
7h, 8h, les jardinières.